Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau sur France Inter, le magazine des transitions.
Quand je serai grand, je serai une fille.
Je lui dis mais non Sacha, tu seras jamais une fille. Et là Sacha s'est mise à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air.
Passer la frontière du genre est toujours un chemin long et difficile. Récemment mis en lumière par la diffusion d'un documentaire de Sébastien Lifshitz, Petite fille sur Arte, le parcours de ces personnes qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance intrigue et suscite souvent ou parfois une fascination malsaine. Mais qui sont réellement ces personnes? À quoi ressemble leur vie? Dans un ouvrage passionnant, le sociologue Emmanuel Beaubati retrace des trajectoires plurielles et complexes où l'on retrouve toujours la question sociale. Notre deuxième invité ce soir, lui, se heurte régulièrement à la barrière des mots, un peu comme la grand-mère de Guillaume Gallienne dans Les Garçons et Guillaume à table.
Le seul problème, c'est que depuis quelque temps, elle dit des mots à la place d'autres.
Alors, ça chante ma petite pupute.
Oui, ça va. Et toi, Babou?
Il paraît qu'il fait un soleil tonitruant dans le midi. Ici, il pleut des crottes. Mais à part ça, ça clignote, ma chatte.
Satané mot quand il se dérobe à nous ou se confine dans le silence de nos existences. Heureusement, le manque, si on sait l'apprivoiser, peut donner lieu à de splendides créations. C'est le cas du dernier album entièrement instrumental d'Albin de la Simone, Happy End, qui sortira le 24 septembre. L'auteur, compositeur, interprète et dessinateur français a retrouvé les mots et il vient nous en parler ce soir.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
On franchit les frontières, les barrières, les silences dans un monde nouveau sur France Inter et vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleski. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu scintiller mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir.
Fier d'être un frix, Edith Depréteau nous livre avec son deuxième album À tous les bâtards, en partenariat avec France Inter, un hymne vibrant à tous les monstres, les mises à l'écart. Il sera entre le 26 octobre et le 22 novembre prochain au Bataclan pour une série de 9 concerts. La dissidence de genre a toujours un prix, mais ce prix n'est pas le même pour toutes et tous. C'est la thèse du sociologue Emmanuel Bobaty qui nous propose, dans son ouvrage « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre » aux éditions La Découverte, une étude inédite sur les parcours d'hommes et de femmes trans aujourd'hui en France. Bonsoir Emmanuel Bobaty.
Bonsoir.
Vous êtes docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de cet ouvrage passionnant, résultat de votre travail de thèse, qui se propose d'analyser non pas la question du pourquoi, mais du comment on change de genre. Il n'y a pas un, mais une multiplicité de parcours qui varie, notamment, on va en parler, en fonction du sexe d'origine et de la position sociale. Une précision terminologique pour commencer en introduction de votre livre. Vous expliquez préférer le terme trans à ceux de transsexuel ou transgenre. Pourquoi ?
Parce que le terme de trans, ce simple préfixe, est peut-être plus inclusif, sachant que le terme de transsexuel, qui est peut-être le mieux connu, vient du monde médical et date des années 50, et désignait au départ des personnes qui souhaitaient se faire opérer, souhaitaient modifier en fait leur corps. Ensuite, le terme de transgenre est apparu dans les milieux militants, parmi les personnes concernées, pour désigner au départ les personnes qui ne souhaitaient pas forcément modifier leur corps. Et le terme de trans, ce simple préfixe, permet de faire référence à une diversité de parcours, et c'est ce que je souhaitais faire dans ce livre.
Alors les personnes trans ont gagné en visibilité ces dernières années, avec des personnalités publiques, vous les citez, qui ont médiatisé leur transition, comme Caitlyn Jenner aux États-Unis, ou le comédien Océan en France. La question de la transidentité est régulièrement abordée dans les médias, au cinéma, vous écrivez même, c'est presque devenu un marqueur de modernité de se montrer trans-friendly. Est-ce que cette médiatisation s'est accompagnée d'une meilleure acceptation par la société ?
Eh bien, pas nécessairement, parce que malheureusement, la visibilité, que ce soit pour les trans ou pour d'autres minorités, eh bien, ne s'accompagne pas nécessairement de une réelle égalité de fait, d'une réelle acceptation. On le voit bien dans le cas des politiques de représentativité et d'égalité pour les femmes, avec la parité par exemple, ça n'a pas forcément changé grand-chose, si vous voulez, au quotidien des femmes concrètement. C'est politiquement correct maintenant pour certaines institutions, certaines organisations, d'afficher ces politiques d'égalité, de représentation, mais ça ne signifie pas que pour autant, dans les faits, la situation change, et c'est effectivement ce qu'on peut observer aussi chez les personnes trans, c'est-à-dire que concrètement, dans la vie matérielle de tous les jours et dans les obstacles auxquels elles doivent faire face, eh bien les personnes trans, pour elles, il n'y a pas finalement si grand changement.
Alors, ce que vous avez voulu démontrer avec cet ouvrage, Emmanuel Bobaty, c'est qu'il y a une diversité de parcours, je le disais, en fonction du sexe d'origine, en fonction de la position sociale. Il n'y a pas une homogénéité de la communauté trans.
Exactement, c'est-à-dire que, en effet, dans beaucoup de médias et même parfois dans des travaux scientifiques, la population trans est présentée comme un ensemble relativement monolithique, comme l'ont été très très longtemps et elles le sont toujours d'ailleurs parfois les femmes. Il y a un certain nombre d'études qu'on appelle les études sur l'intersectionnalité qui ont montré depuis les années 80 que les femmes en réalité forment un groupe très pluriel et que tout le monde ne vit pas la domination masculine de la même manière. Eh bien, c'était un petit peu le même raisonnement, c'est-à-dire, eh bien, une transition, ce n'est pas vécu de la même manière par tout le monde, et l'oppression que peuvent subir les personnes trans n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend de bon nombre d'appartenances sociales qui forgent des expériences très singulières
comment,
du changement de sexe.
Comment ces inégalités sociales façonnent-elles les parcours ? Vous pouvez nous donner des exemples ?
Eh bien, à différents niveaux, ces niveaux sont très nombreux. Alors, c'est particulièrement visible à l'échelle du parcours médical et juridique de transition pour les personnes qui y ont recours. Donc, il y a des grandes inégalités sociales de santé, d'accès aux soins de la transition, d'accès également au changement d'état civil. Ça peut être un parcours plus ou moins long. Pour certaines personnes, c'est un parcours du combattant qui dure plusieurs plusieurs années, voire de très nombreuses années. Pour d'autres, c'est un peu plus vécu sur le registre de la formalité. Mais ces inégalités, on les retrouve aussi dans d'autres domaines hein, que la transition médicale et juridique, comme par exemple dans le domaine familial. Les ruptures familiales sont beaucoup plus nombreuses chez les femmes trans, c'est-à-dire les personnes qui ont été assignées au masculin à la naissance et qui sont devenues des femmes, que chez les hommes trans, par exemple, parce que pour les parents, eh bien, voilà, comme pour la société dans son ensemble, eh bien, un déclassement de genre est moins bien accueilli qu'une ascension sociale.
Ça, c'est vraiment l'aspect passionnant, j'ai trouvé, de votre enquête, parce que vous démontrez, en fait, que le fait de rejoindre la classe des femmes est toujours, en fait, un déclassement.
Eh bien oui, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai appelé l'ouvrage « Transfuge de sexe », c'est parce que je me réfère en fait au cadre de pensée de la sociologie des classes sociales et des mobilités sociales. Hein, et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai mobilisé effectivement les notions d'ascension sociale et de déclassement. Hein, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes concernées ne le vivent pas forcément comme ça elles-mêmes. Hein. Mmh. Mais que néanmoins, c'est un outil théorique qui permet de comprendre le déroulement de ces parcours et de cerner les mécanismes en fait qui se jouent pour les personnes trans au cours de leur transition. Donc c'est un outil théorique assez heuristique pour interpréter ce que c'est qu'une transition de genre, parce que souvent on l'interprète sous l'angle de l'identité. On le voit comme une question d'identité, une transition. Voilà, on rejoint sa véritable identité de genre. Mais en réalité, c'est aussi une question sociale, une question de mobilité sociale, puisque le genre est structurant dans le monde social tout autant que la classe sociale. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est un parcours de transfuge de sexe, finalement, et qui d'ailleurs ne se limite pas seulement à des passages d'homme à femme ou inversement, puisque eh bien, il y a aussi des personnes qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme. Il y a des mobilités à géométrie variable, et il y a véritablement tout un espace social du genre qui ne se limite pas à deux catégories.
Et vous expliquez aussi qu'il y a un prix symbolique à payer pour les hommes trans, celui de la culpabilité, le sentiment d'avoir trahi leur genre, leur groupe d'origine.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des dimensions matérielles hein, dans une transition, mais il y a aussi des dimensions subjectives. Alors, dans une transition, matériellement parlant, les femmes trans ont plus à perdre souvent hein, parce qu'elles sont beaucoup plus violentées, stigmatisées, précarisées au cours de leur parcours, parce que devenir une femme est perçu par beaucoup comme quelque chose de fondamentalement dégradant, en particulier par les hommes. Mmh. Et pour les hommes trans, donc matériellement ça se passe mieux, mais en tout cas, d'un point de vue subjectif, c'est plus compliqué, finalement. C'est plus compliqué de vivre une ascension sociale qu'un déclassement. Et ça, on le retrouve dans les parcours de transfuge de classe. C'est-à-dire qu'il y a une grande culpabilité à rejoindre le groupe qui est en fait l'oppresseur du groupe dont on est originaire. C'est pas si facile de rejoindre le groupe des hommes, la classe des hommes, on pourrait dire, quand on a été soi-même une femme. Et donc, effectivement, c'est une tension subjective qui a tendance à suivre les hommes trans tout au long de leur vie ensuite.
À quel âge peut-on décider d'entamer une transition ? La question des enfants transgenres a récemment été médiatisée en France avec un documentaire diffusé sur Arte, Petite fille, de Sébastien Lifshitz, qui raconte l'histoire de Sacha, une enfant de 7 ans, née dans un corps de garçon, mais qui se sent fille depuis l'âge de 3 ans. On va écouter un extrait de ce documentaire. On est dans le cabinet d'une pédopsychiatre que la maman de Sacha va consulter, et la pédopsychiatre tente de rassurer cette maman inquiète.
C'est pas la décision que vous avez prise de la laisser expérimenter, commencer de s'habiller en fille qui a fait qu'il y avait une dysphorie de genre. La seule limite que ça pourrait avoir, c'est si en effet vous étiez dans une attitude très rigide de dire bon ben si t'es pas garçon, t'es forcément une fille et on va s'en tenir là. Là vous avez pas ce discours là. Vous avez le discours de ben voilà, t'expérimentes ça parce que toi tu te sens fille et on peut se sentir fille et être habillée en fille et puis on verra.
On verra. Emmanuel Bobaty, en France, les premières équipes médicales dédiées à la prise en charge des enfants transgenres sont nées dans les années 2000. Aujourd'hui, deux hôpitaux parisiens proposent un suivi spécialisé. Dans certains cas, les médecins peuvent décider de prescrire des traitements médicamenteux pour bloquer l'arrivée de la puberté. Le nombre de demandes de consultation d'enfants et d'adolescents a augmenté ces dernières années. On peut se poser la question, à quel âge un enfant peut-il décider de se lancer dans un processus de transition avec certaines conséquences médicales irréversibles?
Alors moi, d'un point de vue sociologique, je ne pourrais absolument pas répondre à cette question, en tout cas pas de manière univoque, mais ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de débats sur ce sujet, en tout cas dans le débat public, et avec au cœur de ces débats la notion de consentement. J'ai l'impression de l'enfant, à quel âge l'enfant a-t-il véritablement un consentement qui est propre. Bon, je dirais que... à partir du moment où un enfant demande à être appelé comme il s'identifie lui-même et qu'il demande de consulter ses services médicaux, eh bien ça signifie qu'il le souhaite, hein. Bon, voilà, et puis j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une posture un petit peu paternaliste de la part de certains professionnels ou certains parents que de se dire qu'ils savent mieux que l'enfant ce qu'il pense être, en tout cas ce à quoi il s'identifie. Donc je dirais que ces débats peuvent, à mon avis, véhiculer encore certaines formes de stéréotypes, certaines postures un petit peu transphobes et parfois un petit peu sexistes. Et aussi derrière ça, il y a aussi la question de la domination adulte, par ailleurs, qui peut-être se jouer.
Au-delà de la question trans, s'est développé depuis plusieurs années un mouvement non-binaire, queer. On voit de plus en plus de jeunes gens qui refusent de s'identifier exclusivement à un genre ou à un autre. Est-ce que vous y voyez une mode ou une tendance de fond de la société ?
Alors, je n'y vois pas une mode, j'y vois des transformations de l'ordre du genre, mais je n'y vois pas une mode parce que le terme de mode, pour moi, renvoie au fait que fondamentalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'influence, d'une influence néfaste, peut-être parfois. L'idée que, ce serait quelque chose qui aurait émergé parce que les jeunes se font influencer, je ne pense pas. Je pense, en revanche, que c'est quelque chose qui fait émerger, en tout cas, des changements de l'ordre du genre qui sont revendiqués principalement par les jeunes générations, effectivement, et des jeunes générations qui invitent à penser le genre autrement, c'est-à-dire de manière en fait plus complexe que la bicatégorisation sexuée qu'on connaît, homme-femme, un modèle qui, comme on le sait bien, ne tient pas pour tout un tas de raisons qu'on pourrait évoquer, et cette revendication finalement fait apparaître le fait que cet ordre du genre ne tient plus et que, comme ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on a pensé les classes sociales autrement que de manière binaire, on sait très bien que les classes sociales en France aujourd'hui, ce n'est pas juste des bourgeois versus des prolétaires, et bien de la même manière, le genre c'est quelque chose qui est complexe, qui est mouvant et qui est avant tout pluriel.
Dernière question rapidement, c'est la question rituelle de cette émission, Emmanuel Bobaty. Quel est selon vous l'objet du futur ? Qui manque au futur ?
Alors moi j'aurais peut-être une suggestion dont je sais qu'elle est utopique, c'est d'inventer une machine à remonter le temps, parce que je pense qu'on en aurait bien besoin, notamment parce qu'on a tendance à penser que on progresse de manière linéaire vers l'égalité, que dans le futur ou aujourd'hui on est forcément plus égalitaire et plus féministe qu'avant, mais je pense que en fait ce n'est pas forcément le cas, et le fait de remonter un petit peu permettrait de voir que la domination n'a pas disparu, mais simplement qu'elle a peut-être simplement de nouveaux visages qu'on a du mal à reconnaître, mais qu'elle est là, toujours sous des formes renouvelées, et que le monde n'est jamais fondamentalement nouveau, que la domination, elle sait malheureusement très bien se renouveler.
Merci beaucoup Emmanuel Bobaty. Transfuge de sexe, c'est aux éditions La Découverte. For it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just wore smiling. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon.
blushing, I'm just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that for so bad to feel nice, but she can't handle that, it comes with a small price.
Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids, two sides. Either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out, so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, boy, oh. And she just was riding. Bust down, baby,
I give again. Show me the play if it's a game. If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name. Again, the price of fame is really costing me. Spend again, nothing in this life comes for free. They say the talk is cheap, furthermore it's free. If I go broke today, will you stay or leave? I felt so hard, so deep, wore my heart upon my sleeve. Every word you say, I just believe, so call me Miss Naeem.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out, so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, boy, all of them. Dressed up, and she just wore his wife.
Trusting of everybody and anybody. Not if you're a bitch like me, cause of the bitch I be. I told you to be careful of me, be careful honey.
They call me Miss Hype, I'm done hype. I'll be trusting all the ones that got me. They never really had me see. If you cough up with me, be real with me. You got to be careful loving me, careful honey.
Yeah, I'm gonna turn to it. What you see? You don't know what's that's a beast there. Being on heat from nobody. I never eat from nobody. I never eat from nobody.
Après un détour par la pop, Georgia Smith revient à ses premiers succès au R&B en featuring avec la rappeuse Shaibo, une autre artiste londonienne pour ce morceau. Buzz Down, elle revient avec un album qui contient 8 titres, Be Right Back, en partenariat avec France Inter.
Sonia Quironi sur France Inter.
Sur France Inter, on continue d'explorer les variations de notre époque avec François Vert, rédacteur en chef de Zadig, la nouvelle revue trimestrielle qui raconte toutes les Frances. Bonjour François.
Bonjour Sonia.
Et Myriam Levin, cofondatrice et rédactrice en chef de Chic, le média en ligne inclusif et générationnel des combats d'aujourd'hui. Bonjour Myriam.
Bonjour Sonia.
On commence avec vous François. Alors cette année encore, les Français qui ont la chance de pouvoir partir en vacances choisissent l'Hexagone et les Outre-mer, au bord de la mer, à la campagne ou à la montagne. C'est ce qui ressort. C'est l'envie de retrouver la nature pour respirer après ces périodes de confinement et de reconfinement. Il y a une vraie tendance chez les citadins, François, à vouloir se retrouver, si possible, dans la nature sauvage. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par ce concept de nature sauvage ?
Ben oui, parce que ça pourrait prêter un peu à sourire. Dans l'esprit de beaucoup, cela correspond à une nature où il n'y a pas la marque, où il n'y a pas l'empreinte des hommes qui se fassent sentir, où la présence des animaux est manifeste. On pense bien sûr à la forêt, c'est le lieu où il y a toute une faune sauvage qui se déploie en toute liberté et où la végétation règne en maîtresse, mais il y a aussi les plages désertes. Si on se cantonne à l'Hexagone, cette recherche de sauvage peut paraître quand même assez illusoire et même un peu vaine, et c'est ce que nous a expliqué l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.
Oui, pour lui on fait fausse route, en fait notre territoire est bien trop domestiqué.
Mais oui, la France c'est un pays où la nature est bien trop sous la coupe des hommes. Mmh. Pour ce grand marcheur qui a beaucoup arpenté notre hexagone, ben les territoires restés sauvages comme en Amérique n'existent plus. D'ailleurs, il n'y a pas de mot en français pour le terme anglais « wilderness ». Ça désigne, vous savez, l'espace vierge et l'esprit qui en émane. Ben, nous, on n'a pas d'immensité sauvage dans l'hexagone. Il nous reste des forêts, qui s'étendent aujourd'hui comme jamais, et puis des zones rurales où les terres ne sont plus cultivées et pour le coup reviennent à l'état sauvage.
Et ça s'explique aussi, François, parce qu'en France, on a un rapport particulier à la nature qui est dû à notre histoire.
Oui, tout à fait. Et si on compare aux autres pays d'Europe, c'est manifeste. Et nous, on s'est appuyé sur les travaux de l'historien Jean-Pierre Rioux. Et disons qu'on peut résumer de la façon suivante le rapport des Français à la nature. Eh ben, nous, on a toujours considéré la nature comme autre, comme étrange. Très vite, les pouvoirs successifs ont délimité, organisé, quadrillé l'espace, et ça depuis l'Antiquité. C'est pourquoi la géographie de la France, elle se dessine finalement un peu comme le plan d'un jardin, nous dit Sylvain Tesson, et même on pourrait dire comme un manteau d'arlequin ravaudé après génération. Et dans le milieu naturel, ce qu'on a valorisé très tôt, mais c'est la terre, mais la terre qui se cultive, la terre qui se transmet, la terre qui se partage.
Dans cette France demeurée si longtemps rurale, quand apparaît ce besoin de nature ?
Ben en fait, il apparaît assez tardivement. Alors après, il faut s'entendre. Après 1830, on commence à vouloir protéger la nature et on se préoccupe, par exemple, de reconstituer la forêt française sous l'impulsion des ingénieurs des eaux et forêts, précisément. Et puis, ce sentiment trouve une première concrétisation avec les premiers parcs nationaux sur lesquels s'est longuement penché le sociologue Jean Viard.
Mais avec ces parcs nationaux et régionaux, on est encore quand même malgré tout assez loin, hein, de la nature sauvage, la vraie.
Mais oui, en fait, on répond en faisant ça à une demande. Et comme l'observe la présidente du WWF, Isabelle Autissier, en fait, si on regarde bien, les citadins, ils ont tendance à préférer la nature domestiquée par l'homme, organisée par lui, à la nature sauvage. Il suffit de se dire qu'on n'a pas envie de rencontrer de serpents, qu'on n'a pas envie de subir les moustiques, les insectes. Ouais. Mais dans les dernières décennies, cette perception change avec la défense de l'environnement, le succès des randonnées, tous les sports de nature. Et l'idée de nature sauvage, et ben finalement, les Cévennes en offrent une bonne illustration. Et ça se développe sur tout le territoire, tandis que ce monde rural millénaire disparaît. Et il y a donc tout un espace, disons, non urbain, qui devient une réserve potentielle de nature. Et là, on commence maintenant à se préoccuper de réintroduire des espèces disparues, comme les rapaces, comme les loups, comme les ours, comme les lynx. Et bref, l'idée maintenant qui a cours, qui est en vogue, c'est celle d'un ré-ensauvagement de la nature. Et donc, il y a bien un monde nouveau qui se profile, malgré tout.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup. François, je signale aux auditeurs de France Inter que Zadig a consacré une grande enquête à cette nature dans son numéro 2 qui était paru à l'été 2019 et que vous pouvez toujours retrouver sur le site de Zadig. Loin, très loin de la nature sauvage, quoique elle serait plutôt entourée par des rapaces. Hein, Myriam Levin, ce soir, vous posez cette question. Que va devenir Britney Spears ?
Oui, ça a l'air anodin comme question, mais l'avenir de la chanteuse est en train de devenir un sujet d'actu majeur, à tel point que le journal Libération en a fait sa une il y a 3 semaines. Aux États-Unis, ça fait déjà des mois que le New York Times enquête sur la vie de Britney Spears, dont on découvre qu'elle vit un enfer depuis 2007, l'année où elle a pété les plombs lors d'un rasage de tête célébrissime. Une décennie et une révolution MeToo plus tard, on ne parle plus de coups de folie, mais de dépression postpartum, de santé mentale et d'exploitation sexiste des pop stars. Parce que oui, en 2021, Britney Spears sort enfin de son silence et révèle au monde que la tutelle exercée par son père depuis 14 ans, pour soi-disant la protéger de ses excès, n'est qu'une prison dorée qui la prive de toute liberté et dont elle voudrait sortir au plus vite.
Ah, Britney Spears enfermée, pourquoi on ne l'a pas su avant, plutôt ?
Déjà parce qu'elle n'a rien dit pendant longtemps. En 2007, elle avait déjà vendu des millions d'albums, mais elle n'avait que 25 ans et surtout 2 jeunes enfants qu'elle tentait de protéger des paparazzi, obsédée par ses petits amis, ses sorties et bien sûr ses tenues. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux et les tabloïds régnaient en maître. Pour eux, Britney Spears, c'était la femme-enfant collégienne qui avait longtemps clamé qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage et dont la sexualité était devenue la préoccupation de tous les journalistes qui l'interviewaient. Les années 2000, c'était bien avant MeToo. Et les jeunes chanteuses comme elle étaient avant tout des objets sexuels qu'on avait du mal à considérer artistiquement, malgré des succès phénoménaux qui en faisaient des poids lourds de l'industrie musicale.
Oui, oui.
Le monde de la musique qui est aujourd'hui heureusement en train d'essayer de se débarrasser de ce sexisme, mais il y a 15 ou 20 ans, on n'en était pas là. C'est ce qu'a montré cet hiver le documentaire du New York Times, Framing Britney Spears, dont la diffusion a sans doute joué un grand rôle dans la prise de conscience actuelle autour du sort de la chanteuse.
Et on suit aujourd'hui, maintenant, Myriam, de très près, ses audiences qui l'opposent à son père.
Oui, Oui, la bataille actuelle de Britney Spears est de se libérer de la tutelle de son père, qu'elle accuse de vivre à ses crochets en exploitant ses revenus colossaux. Après être restée silencieuse toutes ces dernières années, elle a été transparente dans ses derniers posts sur les réseaux sociaux. Elle ne fera plus aucun concert ni aucun disque tant que ce dernier gérera ses finances. Et l'autre tournant majeur de cet été dans ce mouvement que ses fans ont baptisé Free Britney, c'est qu'elle a pris la parole par téléphone lors de son audience du 23 juin dernier et a dit très clairement qu'elle allait mal. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
And that's why I'm telling you this again 2 years later. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough. Maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. You know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane. And I'm depressed.
Bon, en gros, Britney dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle a été longtemps dans le déni, mais qu'en fait, elle est traumatisée. Et que voilà, elle a essayé de le cacher au monde entier, mais qu'elle n'y arrive plus.
Donc ça, c'était le 23 juin dernier. On en est où aujourd'hui?
Alors, il semblerait que la roue tourne, puisque Britney Spears a enfin eu l'autorisation de choisir l'avocat qui la défendra désormais. Mais la bataille juridique pourrait s'avérer encore longue et difficile. On en saura plus lors de la prochaine audience fixée au 29 septembre, dont on peut être sûr qu'elle sera relayée médiatiquement maintenant que le monde s'intéresse au destin de Britney. Et qui sait, on peut peut-être rêver et imaginer que Britney Spears va très vite reprendre le contrôle de sa vie, repartir en tournée et renouer avec sa carrière qui avait si bien commencé et qui est totalement à l'arrêt. Elle aura 40 ans en fin d'année, le monde a beaucoup changé pour les femmes de sa génération. Peut-être que les planètes vont enfin s'aligner pour son comeback très attendu. Et je ne vais pas mentir, j'ai hâte d'entendre ce que la Britney Cadra a à nous dire. Mmh. Et je serai même sûrement dans la fosse de son prochain concert.
Oui, toutes dans la fosse, Myriam. Merci beaucoup, Myriam Levin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef de Chic, qui suit de près ce mouvement Free Britney. Vos articles sont à retrouver sur le site des Inrecuptibles et en kiosque tous les mois. Merci à François V dans le dernier numéro de Zadig consacré au complotisme et disponible en kiosque et en librairie. Il est auteur, compositeur, interprète, mais aussi bassiste, claviériste et arrangeur pour beaucoup d'artistes français. Il est aussi dessinateur, c'est en quelque sorte un artiste total que nous recevons ce soir dans un monde nouveau sur France Inter. Bonsoir Albin de la Simone.
Bonsoir.
Vous sortez bientôt, le 24 septembre, un nouvel album entièrement instrumental, Happy End. Votre nouveau monde, à vous, il n'a plus de mots, mais il se termine bien.
C'est mon monde actuel, c'est pas mon futur, c'est mon présent.
Ouais. Vous parlez souvent d'amour dans vos chansons, puisque dans les 5 derniers albums, vous chantiez. Ouais. Et on va justement écouter un titre du précédent album, Le Grand Amour.
Très bien.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais. Javanais, nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Pas. c'était l'amour, je m'y connais. Jusqu'à ce jour de fin juillet, elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale, l'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop.
Grand amour d'Albin de la Simone, issu de l'album L'un de nous, sorti en 2017. Et votre nouvel album, Albin de la Simone, sort donc le 24 septembre prochain. Un nouvel album entièrement instrumental, je le disais, ça s'appelle Happy End. Comment est née l'idée de cet album sans parole?
Eh ben, l'idée est venue d'une panne d'écriture de paroles. En fait, ça m'a un peu cloué le bec l'année qu'on a passée. J'arrivais pas à être inspiré, je voyais pas d'horizon, je me suis rendu compte d'ailleurs que j'avais besoin d'un horizon dégagé pour écrire, puisque je n'arrivais pas à écrire n'ayant pas d'horizon. En revanche, la musique continuait vraiment à couler à flot dans ma tête et je jouais beaucoup, j'ai plein d'instruments, je prenais vraiment du plaisir à écrire, à jouer de la musique, à improviser de la musique. Et aussi, je me rendais compte que j'avais besoin d'écouter de la musique douce. Donc je me suis dit à un moment, mais c'est seulement en février dernier quand même, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, il faut que je fasse un disque de musique douce. En attendant, je suis peut-être pas le seul à en avoir besoin. Moi, j'ai besoin de l'exprimer et je pense que ça peut faire du bien.
Et ben, voilà, on va écouter comme ça. Tout de suite de la musique douce. Premier extrait de cet album, Un ami. Premier extrait du nouvel album d'Albin de la Simone qui sortira le 24 septembre prochain. Le robinet à mots tombe en panne parfois, mais jamais celui de la musique. Vous dites qu'il y a toujours de la musique dans votre tête. C'est comment de vivre avec un robinet à musique ouvert en permanence dans la tête?
Ben, je sais pas, j'ai toujours vécu comme ça. C'est surtout à vous que j'ai envie de retourner la question. Si c'est pas le cas, enfin, je veux dire, moi j'ai toujours effectivement un rythme, des accords, de la musique, des trucs. D'ailleurs, j'ai des problèmes de dents parce que je claque des dents en rythme quand je marche. Je fais des contre-rythmes ou des.
Ben, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça doit être fatigant parfois aussi.
Ouais, sûrement. Mais c'est une activité cérébrale permanente. Mais c'est. Comme s'il y avait un filtre qui fonctionnait en permanence. J'entends de la musique, elle va se transformer toute seule, et puis une heure après, j'ai un reste de cette musique, mais qui ne ressemble plus. Donc ça veut dire que quand je vais devant un instrument de musique, mais je pense que c'est le cas de plein de musiciens, je peux improviser quelque chose tout de suite. Il y a toujours un flux.
Qui sort.
Voilà, ça sort.
Alors vos influences musicales sont très diverses, vous avez un parcours assez étonnant. Vous avez commencé comme pianiste de jazz avant de vous lancer dans une carrière solo. On connaît le Albin de la Simone dont les titres sont toujours quand même empreints d'une grande douceur. Et pourtant, quand vous étiez ado, vous écoutiez ça.
Ah ouais, crasse. Ah bah alors ça, c'est mon album préféré de ce groupe en plus.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bah ouais, j'ai toujours eu besoin d'une certaine d'exprimer, surtout ado, hein, exprimer une certaine violence, la ressentir. Mais c'était un groupe militant, vachement bien, crasse. Ça
punk.
Reste super, ouais punk. Mais en fait, je fais la musique qui va à mon corps, à ma voix aussi. Mais j'aime toutes sortes de musiques. J'ai joué avec Iggy Pop. J'ai joué avec des musiciens africains, avec Salif Keita. Il y a plein de sortes de musique que j'adore et que j'adore pratiquer, mais ça ne veut pas dire qu'elle m'irait si je chantais, enfin quand oui. je chante. Quoi.
Et qu'est-ce qui reste du Albin de la Simone punk aujourd'hui, en 2021
Pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose. J'étais punk comme on est punk ado, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je dirais punk moins le quart, quoi. C'est quand même pas un punk très énervé.
Alors, parallèlement à votre carrière en solo, vous produisez et arrangez des morceaux pour de nombreux artistes français. On vous a préparé un petit medley. Peut-être reconnu Vanessa Paradis, les Brigitte, Arthur Ashe, Raphaël, Jean-Louis Aubert, Pomme, Cat Centuries. On aurait pu aussi mettre Alain Souchon, Keren Anne, Mathieu Bogart, Carla Bruni ou encore Iggy Pop, vous en parliez. Vous êtes le musicien le plus prolifique de la chanson française. Vous aimez travailler pour les autres ?
J'adore ça, ouais. C'est passionnant. Puis, comme je vous disais, ça permet d'exprimer des choses que je peux pas exprimer pour moi, chanteur. Le disque, surtout ces disques-là, j'ai joué du piano ou des claviers, sauf le disque de Pomme que j'ai arrangé et co-réalisé avec elle, et où là, je suis plus impliqué stylistiquement. Du coup, c'est vraiment... Je suis vraiment impliqué dans chaque note qu'il y a dans ce disque.
L'album Les Failles,
magnifique. Ouais. Et c'est une grande fierté d'ailleurs, je suis très heureux. Mais c'est super de partager la musique avec d'autres et de recevoir un petit peu leur vision. Pomme, elle a 25 ans aujourd'hui d'ailleurs.
Ah bah bon anniversaire Pomme.
C'est une vision tellement différente de la mienne, de la musique, du monde. Enfin, c'est un parcours tellement différent. Moi, ça m'apporte vachement.
Elle incarne vraiment aujourd'hui la jeune Pomme, cette jeune génération, la chanson française.
Oui, elle incarne la jeunesse. Elle a un propos très très engagé en plus sur le monde et sur la première partie de votre émission. Elle a un regard sur le genre, sur le sexe. Enfin, justement, non pas le sexe, le genre. C'est très intéressant.
Votre dernière collaboration, c'est avec Yael Naïm à l'occasion de la sortie en novembre d'un album anniversaire pour fêter les 25 ans de votre label commun, Tôt ou Tard, un album de reprises, des artistes tôt ou tard entre eux avec des duos et puis un inédit que vous avez composé avec Yael Naïm. Elle a écrit les paroles et vous avez composé la musique. Ouais. Ça sort en septembre, vous pouvez nous en dire
non,
plus.
Ah non, c'est l'inverse, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous ai dit ça, mais en fait c'est l'inverse. Elle a écrit la musique, j'ai écrit les paroles.
Ah, vous avez écrit les paroles?
Mais oui, bien sûr, mais non, je suis complètement...
Ah parce que ouais, vous avez tellement l'habitude d'écrire la musique. Cette fois-ci, vous avez écrit les paroles.
J'ai écrit les paroles et c'était il y a 20 ans. On a écrit ça avec Yael ensemble il y a 20 ans. On avait envie de chanter ensemble, de faire des trucs ensemble. Et puis, on ne l'avait jamais enregistré. Elle s'appelle Tina Silly, ça veut dire épouse-moi. Et en fait, dans les couplets, ça raconte que c'est l'enfer dans le couple. Et puis, dans les refrains, ils disent épouse-moi.
On découvrira ça donc en septembre. Vous avez aussi une passion pour le cinéma, Albin de la Simone. Et vous avez une idée saugrenue, un spectacle de musique de film qu'on ne verra jamais. Ce spectacle est invité le spectateur est invité à imaginer le film à partir de ce qui est joué par les musiciens et par les acteurs. Il a été présenté en juillet dans le cadre du Festival Paris l'été. Vous avez avez joué dans un lycée parisien, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du lycée Jacques Descours dans le 9e arrondissement, où a été tourné Les 400 coups.
Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises « L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. »
Les 400 coups de François Truffaut, tourné donc à Paris, dans ce lycée parisien Jacques Descours. Et le film est sorti en 1959, un hommage au cinéma que vous aimez tant.
Oui, j'aime le cinéma. Oui. Et l'idée de... Bah, évidemment, je peux pas faire de film, moi, je suis pas du tout cinéaste. Mais par contre, comme j'ai remarqué que quelquefois, on nous racontait un film et l'imaginaire était... Finalement, quand on allait voir le film en vrai, on pouvait être presque déçu par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et ben là, je propose aux gens d'imaginer des films, et puis je leur promets que les films n'existeront jamais.
Un exemple de conviction qui a changé le réel. On termine avec les 40 ans de la loi Langue sur le prix unique de livre. On vous a demandé d'en choisir un.
Un livre.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous ce soir, Albin de la Simone ?
Eh ben, j'ai choisi un livre de Sylvain Prudhomme, écrivain et homme que j'aime beaucoup. Le livre s'appelle Les Orages, je crois que c'est son dernier. Et c'est un recueil, il dit pas de nouvelles, mais d'histoires. C'est des histoires courtes, très simples, très sensibles, très touchantes, très belles. Par exemple, il y a une histoire où c'est juste une femme qui rentre dans le bain. Et c'est toutes ces sensations, ça décrit tout ça. C'est très beau, ça me touche beaucoup. Et on prépare un spectacle ensemble pour le festival de Manosque, Les Correspondances, fin septembre.
Le 26 septembre,
oh,
je crois. Ah bah oui, j'ai bossé quand même.
Ah ouais.
Les Orages de Sylvain Prudhomme. Merci beaucoup,
merci
Albin
vous.
De la Simone, d'avoir été notre invité ce soir. Happy End, c'est donc le titre de votre dernier album disque, oui. Instrumental qui va sortir le 24 septembre. Il y a déjà deux titres qui sont sortis, Un ami et Le Chalet. L'album, je le signale également, il est déjà en précommande. On peut aussi, si on commande un vinyle, vous nous offrez en prime un dessin, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous êtes aussi dessinateur, Albin de la Simone.
Un dessin de mes instruments.
Un dessin de vos instruments. Voilà, ça c'est pour la commande du vinyle. Merci beaucoup.
Et ça c'est Le Chalet, le morceau qu'on entend derrière.
C'est
merci
exact.
À vous.
Le Chalet, issu donc de votre album Happy End. On va l'écouter un petit peu.
Super.
Allez.
C'est de la musique pour regarder par la fenêtre.
L'horizon.
Ouais.
Le Chalet, de la musique pour regarder l'horizon au loin, sur la plage ou ailleurs, où que vous soyez. Merci beaucoup, Albin de la Simone, d'avoir été notre invité ce soir dans un monde nouveau. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et à la préparation de l'émission, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. Et à la technique ce soir, Mathias Alléon. Un nouveau monde, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain avec le chercheur François Gemène et le dessinateur Enki Bilal. Après le journal, vous retrouvez Le Téléphone Sonne. Ce soir, résidence secondaire, chance ou menace pour les locaux.